à tous, c'est Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le Quart d'heure de santé, produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors docteur, vous allez nous parler de quelque chose de pas très drôle, hein, il s'agit des catastrophes.
C'est catastrophique. Les catastrophes et les cataclysmes surviennent sans prévenir, sans délai préalable. Une connaissance de leurs effets est indispensable aux organisations civiles et militaires pour assurer, dès le survenu, la gestion raisonnée des conséquences des dommages.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cataclysme ?
Eh bien, le cataclysme est un événement naturel, soudain, brutal, violent, paroxystique et de survenue non prédictible. Personne n'est en mesure de prévoir précisément le moment de sa survenue, de son intensité, de sa durée, de la puissance destructrice, que ce soit dans ses effets ou les conséquences dommageables. L'énergie du cataclysme, sa puissance irrépressible et sans commune mesure avec les effets d'une catastrophe d'origine humaine. La nature du cataclysme, qui est un événement naturel, peut être climatique, météorologique, tellurique. C'est la chute d'un météorite, un tremblement de terre, une éruption basculique, un vent cyclonique, un tsunami. Mais, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, les effets démesurés ne sont plus à la mesure humaine.
Alors, bien sûr, il y a des conséquences, des effets secondaires à cette catastrophe.
Eh bien, la catastrophe inclut des effets secondaires considérables à l'échelle humaine. Ce peut être une explosion, ça peut être un accident nucléaire, ce peut être aussi une guerre, un accident de train ou d'avion. Bref, les effets des catastrophes s'expriment en étendue territoriale dévastée, en étendue des destructions de bâtiments et ouvrages d'art, en dommages matériels et en nombre de victimes, que ce soit des morts ou des blessés. Les effets humains sont immédiats et irréversibles. Le nombre de victimes est un chiffre parlant, 1000, 10 000. Le nombre des morts est le premier bilan approximatif illustrant la gravité du fait générateur. Et cependant, le nombre s'accroît à mesure que les sauveteurs progressent vers la périphérie des zones sinistrées. Quant au nombre de survivants inaccessibles dans les décombres, il est complètement inconnu. Il viendra grossir le nombre des morts à mesure que le temps passe, sans avoir été repéré, sans avoir été dégagé, sans avoir reçu de secours ni de soins de maintien en vie de tous les ensevelis.
Donc les conséquences sur la population sont immédiates.
Les privations sont immédiates dès la première heure. La première privation de la population, c'est celle de l'eau. C'est le besoin du survivant, du blessé, de l'enfant, de l'enseveli. C'est un besoin impératif, une extrême urgence et à satisfaire dans les premières heures. La seconde privation est climatique. Elle est liée au froid, à la pluie, à la neige, au gel. Elle est la cause de décès d'enfants, de survivants, de blessés, à cause de la température, généralement le froid. Quant aux secours adaptés pour ces deux premiers besoins urgents, ils sont le fait des premiers sauveteurs, qui apportent de l'eau et des couvertures. Quant à la privation alimentaire d'une population adulte et saine, c'est une seconde urgence qui peut être différée. Un jeûne de plusieurs jours est physiologiquement tolérable par toute personne normalement constituée et en santé convenable. Il n'en est pas de même pour les enfants et les nourrissons.
Donc, tout est désorganisé.
Tout est désorganisé. La désorganisation sociale de la population est plongée dans le même dénuement, dans les mêmes pénuries, est insurmontable sans une aide extérieure. Les comportements de fuite, d'errement sans but, d'hébétude sont fréquents. Il n'y a pas de comportement adapté à cette période proche de l'événement. Quelques individus, cependant, ont des comportements adaptés. Ils extraient les survivants des décombres et ils apportent du secours immédiat.
Alors, est-ce qu'il y a des informations complètes ?
L'alerte locale souffre d'informations parcellaires, sans vision globale d'étendue et de gravité. C'est avec ces approximations que partent les premiers secours, ceux de proximité d'abord, c'est-à-dire la police, l'armée, les associations, les volontaires.
Alors, est-ce qu'il y a une bonne organisation entre ces différents intervenants ?
Eh bien, initialement, c'est la pagaille. Mais l'organisation des secours initiaux, sur place, souffre de la carence de coordination. Les autorités locales sont de fait des coordinatrices, elles ont un plan, mais elles manquent de l'expérience d'organisation, du plan de travail, de tous les volontaires qui proposent leur aide. C'est une période de confusion. L'aide aux victimes ne s'accompagne pas des bonnes volontés. Il faut des soignants, il faut des sauveteurs, il faut du matériel de désincarcération, il faut une logistique alimentaire, il faut des tentes pour les hôpitaux de campagne, il faut du logement pour les sauveteurs et les
sauver.
Et les sauver. Le temps initial de désorganisation locale est variable selon le pays, le relief, l'accessibilité terrestre des moyens de transport et des secours.
Mais pourtant, on a prévu.
L'organisation du sauvetage est prévue avant la survenue de la catastrophe, localement par les autorités civiles, puis plus professionnellement par une cellule spécifique quand arrivent les secours extérieurs. Mais une catastrophe d'ampleur nécessite un afflux rapide de moyens et de compétences, ceci nécessite une grande coordination. La coordination des innombrables intervenants est une notion fondamentale. Les arrivées, les départs, la relève, les arrivées de l'armada des véhicules, des avions, des bateaux qui apportent de l'eau, de l'alimentation, des médicaments, du matériel de soins, qui embarquent les urgences, les malades et blessés urgents, tout ceci nécessite une organisation de qualité professionnelle. Il n'y a pas de place pour des initiatives personnelles, aussi honorables soient-elles.
Oui, donc il y a un personnel qui est vraiment tout à fait précisé.
Absolument. Les personnels ne peuvent affluer sur le site de la catastrophe avec les mains vides. Ce sont des spécialistes en détection des survivants, en désincarcération, en médecine d'urgence, en logistique. Toutes ces compétences s'apprennent, elles s'entretiennent, elles se perfectionnent. La disponibilité du personnel mobilisable en capacité opérationnelle et le délai de son acheminement sont déjà prévus. Ils sont réalisés dans un temps le plus court possible, en heures rarement, en jours plus souvent.
Nous allons faire une pause musicale.
Oh, well, as I was going over up in Kerry Mountain, lay back with Captain Farrell, and his money he was counting. Horse produced to be pistol, I had produced to be rapier. Since then, that deliver for you, where about the steamer of the ring of you. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Well, he counted out his money, it made a pretty penny. Put it in me pocket and I gave it all to Jenny. And she sighed and she swore she'd never would betray me. But the devil take a woman for they never can be easy. With the ring a doo a ma doo. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Oh, if anyone can aid me, 'tis me brother in the army. Fighting near the station, it's in Corker in Killarney. Then I'd go and join him, we'd go roving in Kilkenny. I'd engage you, treat me fairer than me sport and Jenny. With me ring a ma doo a ma doo. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Now there's some that take delight in the hurling and the bowling. Others take delight, oh, in the carriages are rolling. But I take delight in the juice of the barley and courting pretty women when the sun is rising early. With me ring a ma doo a ma doo. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Oh, with me ring a ma doo a ma doo. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar.
Alors, ça, il s'agit là du personnel, mais alors le matériel professionnel.
Alors, l'acheminement des sauveteurs, d'abord, nécessite celui de leur matériel professionnel. On ne peut pas arriver les mains vides. Il faut que les sauveteurs aient une base de vie. Il faut qu'eux, ils aient de l'eau potable. Il faut qu'ils aient aussi de la nourriture. Il faut qu'ils apportent des médicaments et des hébergements pour les victimes. Tout cela prend du temps, même si l'urgence presse tous les acteurs. L'arrivée de moyens lourds de levage des décombres et de désincarcération, d'approvisionnement en volume suffisant, est tardive, retardée par rapport aux besoins immédiats, parce que les ports, les aérodromes, les routes sont inaccessibles avec tout le volume de matériel nécessaire.
Donc il faut que les sauveteurs arrivent très vite.
Eh bien les sauveteurs, non seulement les sauveteurs, mais il faut aussi leurs chiens, les détecteurs de présence des victimes vivantes sous les décombres. Tout ceci est indispensable à l'effort d'assistance et, si possible, le plus rapidement possible. Le nombre d'ensevelis vivants décroît vite avec le temps. On annonce avec plaisir l'extraction d'un blessé après 100 heures d'incarcération, mais c'est oublier les 100 ou 1000 des blessés qui vont décéder durant cette même période sans même avoir été jamais repérés. Une catastrophe de grande ampleur est très destructrice, notamment en vies humaines.
Oui, et en ce qui concerne le matériel de sauvetage, de quoi dispose-t-on ?
Eh bien, les matériels de sauvetage sont les compléments obligatoires des sauveteurs. La détection phonique des ensevelis en vivant, la désincarcération sous les encombrements, sous les effondrements, les extractions des ensevelis sous des amoncellements de gravats nécessitent des dispositifs de localisation et de levage adaptés. Et ces dispositifs, ce sont des grues, des camions, il faut les amener. Il faut les amener en bateau, il faut les amener en avion. Mais ce matériel doit être livré sur le site de son utilisation, déterminé par la cellule de coordination des matériels et des personnels. Bref, le retard dans l'urgence se mesure en jours. Quant à la prise en charge de toutes les populations, ce sont des démunis. C'est une filière non médicalisée. Mais l'organisation locale ne se conçoit dès la première heure et se pérennise dans une longue durée, en semaines, voire en mois. Il faut de l'eau, il faut du lait pour les nourrissons, de la nourriture, des couvertures, des tentes.
Alors il y a un problème quand même, et on le voit à chaque fois.
Hélas, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Le pillage fait partie des problèmes. Il faut apporter soit de l'armée, soit de la police. Le pillage fait partie des problèmes associés aux catastrophes. C'est une fonction supplémentaire de gérance de la situation, et c'est une fonction particulièrement malvenue en l'occurrence. Ainsi donc, les soins médicaux de première urgence sont réalisés par les survivants locaux. Voilà ce que l'on peut dire dans un premier temps, parce qu'il sera temps ultérieurement de parler de la médecine de catastrophe, qui sera notre sujet de la semaine prochaine. L'émission Le quart d'heure de santé est diffusée le mardi à 18h45, le jeudi à 11h15 et le samedi à 15h, sur Radio Grand Ciel bien sûr. L'émission peut être écoutée à tout moment sur www.radiograndciel.fr. Amis fidèles, à bientôt.
Come gather around, assholes, and chop me a line. I'll tell you the tale of a good friend of mine. It's a tale worth the telling, though you might not agree, of a man I once knew and how he lost the sea. I came here from a heartland where no heart can live, where eyes remain hard and cannot forget. Of bloodshed and prison I was not afraid, as long as the dead man inside me got laid. Awake late in the morning with a scream in my skull. I shuffle to the kitchen, but the knives are all dull. And my life kept on winding, winding down slow. I was dying of shame, but not one tear did flow. And with one final click, and with nowhere to go, I lay down to sleep where the night lilies